France Musique.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, sixième épisode, l'Amérique. Entre janvier et mai 1937, Igor est en tournée aux États-Unis pour la troisième fois. Tournée des orchestres, mais aussi des stars. Il rencontre Charlie Chaplin, qui a donné l'année précédente Les Temps modernes. Et Walt Disney, avec lequel il scelle au champagne pour 5 000 $ le contrat permettant l'utilisation du Sacre du printemps dans Fantasia. Surtout, il dirige le 27 avril au Metropolitan Opera de New York la création de Jeux de cartes, ballet chorégraphié par Balanchine qui lui a été commandé 2 ans plus tôt lors de sa précédente visite. L'idée d'un ballet sur un jeu de cartes, non pas en 3 tableaux, mais en 3 donnes, Igor l'aurait eu dans un taxi. On ne sait trop de quel jeu il s'agit. Le poker, peut-être. C'est en tout cas ce qu'il prétend. Une photo publicitaire le montre d'ailleurs jouant au jeu américain par excellence. Publicitaire, l'œuvre l'est également. Pleine de parodies de Beethoven, Rossini, Johann Strauss, plus des citations de Stravinsky lui-même. Comme un produit d'appel néoclassique à l'intention des États-Unis, venez voir, c'est gai, c'est frais, il y en aura pour tous les goûts. Extérieurement, le ballet joue avec les personnages représentés sur les cartes, roi, reine, as, et avec une figure centrale, le joker. Carte caméléon, puisqu'elle peut remplacer n'importe quel autre, emprunter n'importe quel masque. C'est un autoportrait du Stravinsky néoclassique, joueur par excellence, gentiment méphistophélique, qui sait tout faire, se joue de tout et qui a tout dit oui. Bien des années après, le compositeur Nicolas Nabokov faisait ce portrait du Stravinsky des années 30. Ses mouvements étaient vifs, précis, très contrôlés, comme ceux d'un très bon danseur ou d'un acrobate expérimenté. Il était fascinant de le voir arpenter une pièce à petits pas, la partie supérieure de son corps basculant en avant, les poings aux hanches, comme celui d'une cigogne pêchant une grenouille, avec une étrange démarche élastique, des hochements de tête syncopés, des haussements d'épaules et de brusques arrêts au milieu d'une conversation. Retour à Paris, où Igor fait la connaissance d'un jeune chef d'orchestre, Manuel Rosenthal, âgé d'un peu plus de 30 ans. Ce dernier nous révèle l'ambiance qui régnait alors dans le foyer Stravinsky au moment des repas.
C'était une maison typiquement slave. Il y avait une énorme table de repas. Alors voilà comment ça se passait. Nous arrivions pour un repas. Madame Stravinsky-mère était déjà assise. C'est elle qui présidait naturellement toujours les repas. Et elle nous attendait. Alors, en arrivant, Stravinsky embrassait très respectueusement sa mère. Naturellement, je la saluais très bas. Et nous allions à l'autre bout où Stravinsky, en face de sa mère, présidait, comme élément mâle de la famille, le repas. Or, très souvent, nous étions déjà 6, 8, 10 autour de la table, mais jamais le même nom, jamais les mêmes personnes, excepté les deux filles de Stravinsky. Mais c'est tout, les autres personnages étaient toujours différents. Alors un jour, je vois arriver, mais tard, arrive un monsieur avec une petite barbiche noire, ressemblant à un personnage de Tchekhov. Et alors, il s'assied, ayant salué Madame Stravinsky, et ayant d'une façon un petit peu désinvolte, salué Stravinsky. Alors je dis à Stravinsky, pouvez-vous me présenter, qui est-ce? Il m'a dit, mais c'est que je ne sais pas moi-même. Alors ça devait être probablement un lointain cousin, vous savez, comme ça arrive dans les familles russes, ou même un invité, un type qui s'invitait, parce que c'est une maison russe, et bien, célèbre, alors on a entendu parler de Stravinsky, on vient, puis on se met à table, puis au besoin, on couche aussi. Apparemment, Stravinsky lui-même ignorait la provenance, et c'était quelqu'un qui s'invitait pour une nuit, deux nuits, huit nuits, 15 repas chez lui, et puis voilà, c'était comme ça, une maison ouverte.
En cette année 1937, Stravinsky n'est pas satisfait de l'image que lui renvoie son pays d'adoption, la France. L'échec à l'Institut a laissé des traces. On ne le considère que comme un chef occasionnel, tout juste bon à diriger ses propres pièces. Et puis on ne joue régulièrement que ses œuvres anciennes, pas les nouvelles. Bref, il est rentré dans les meubles, des meubles un peu vétustes à son goût. Il se retrouve même bientôt seul grand maître des lieux musicaux. Le 28 décembre 1937 meurt en effet Maurice Ravel. Les rapports avaient beau s'être dégradés, Igor est bouleversé. Lors d'un concert hommage donné le soir même, alors que s'achèvent l'enfant et les sortilèges, il est prostré dans son fauteuil, en larmes, le visage convulsé. À peine achevé Jeu de cartes, fidèle au rythme qui est le sien depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire une œuvre d'envergure par an, Stravinsky se lance dans un concerto pour orchestre de chambre commandé par de riches Américains, Robert et Mildred Woods Bliss, qui vont être ses principaux mécènes durant quelques années. Ils veulent faire jouer la pièce dans leur propriété de Dunbarton Oaks, dans l'état de Washington, et sous la direction de Nadia Boulanger, qui a été ici la go-between. Le 8 mai 1938, à Dunbarton Oaks, résonne pour la première fois ce qu'on appellera un jour le 7e concerto brandebourgeois. Thank you. Igor Stravinsky, à la tête de l'orchestre de chambre de la Columbia, a interprété le premier mouvement du concerto en mi bémol dit Dumbarton Oaks.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
En ces années de montée des périls, où Stravinsky se situe-t-il politiquement ? Eh bien, partout où on l'engage et où on joue sa musique. En 1938, il accepte ainsi de diriger le Philharmonique de Berlin pour la Telefunken en pleine Allemagne nazie. Il n'empêche que la même année, son nom figure, semble-t-il par accident, parmi ceux des cosmopolites et bolcheviques dans la liste des artistes dégénérés de la fameuse exposition Entartete Musik. Igor se scandalise et fait intervenir l'ambassadeur de France. Son nom est effacé de la liste ignominieuse. On continuera à le jouer sous le régime nazi, en tout cas jusqu'à son exil américain. Au sujet du politique, à l'hiver 1938 se place une petite mésaventure révélatrice. Elle est racontée par Manuel Rosenthal.
La RAI, la radio italienne, avait engagé Stravinsky pour venir diriger un concert de ses œuvres. Et Stravinsky avait dit « Je ne dirigerai pas seulement mes œuvres, mais je voudrais inclure dans ce programme une œuvre de mon ami Vittorio Rieti ». Le directeur de la RAI a écrit à Stravinsky pour lui dire « Nous vous serions très reconnaissants, maître, de supprimer l'œuvre de Rieti de votre programme ». Et Stravinsky a tout de suite compris que Rieti étant juif, c'était une séquelle des lois raciales que Mussolini, poussé par son voisin Hitler, avait édictées en Italie. Alors, fou furieux, m'a-t-il dit, il a écrit à Mussolini en lui disant « Mon cher ami, si vous devenez aussi idiot que votre voisin germain, en ce cas, je ne veux plus avoir affaire à vous et à votre pays. » Et immédiatement, Mussolini lui a répondu en lui disant « Mon cher maître et ami, je vous en prie, venez à Rome, j'ai destitué le directeur général de la RAI, jouez qui vous voulez, personne ne touchera votre programme et vous êtes absolument libre, nous sommes tous trop honorés, trop heureux que vous acceptiez de venir diriger les compositeurs que vous aimez et vos propres œuvres. » Connaissant les opinions politiques de Ravel, c'est-à-dire son orientation à ce qu'on appelle la gauche, j'ai posé un jour une question similaire à Stravinsky, c'est-à-dire quelle opinion avez-vous ? Est-ce que un parti quelconque vous intéresse en France ? Et Stravinsky m'a répondu tout de suite, très vivement, presque brutalement, « Mon cher, maintenant je vois qu'il faut choisir entre le casque et la casquette. Et moi, j'ai choisi le casque. Ça m'a fait très peur. »
Pour en finir avec les rapports de Stravinsky au monde politique, disons deux choses. La première, c'est que notre compositeur était un homme d'ordre et que dans les années 30, ce sont les régimes fascistes qui incarnent l'ordre. La seconde, c'est qu'il a vécu comme un traumatisme la révolution de 1917 avec la perte de la totalité de ses biens et l'impossibilité de se rendre libre dans son pays natal. Robert Kraft résumera plus tard en ces termes. Si Stravinsky n'était pas venu en Amérique, il se serait compromis politiquement. La peur du communisme l'aurait conduit dans les bras de l'occupant. En fin de compte, c'était un russe blanc. Le 30 novembre 1938, son deuxième enfant, sa fille Ludmila, meurt à 30 ans de la tuberculose. On peut supposer ce deuil d'autant plus douloureux qu'Igor n'en dit rien à personne et nulle part, pas une allusion. Trois mois après, sa femme Katharina succombe à son tour à la maladie. L'a-t-il aimée ? C'est indéniable, même si certains, comme Nijinsky, ont affirmé le contraire. Elle avait été sa première confidente, sa première alliée, beaucoup trompée, jamais quittée. Dans leur modèle, patriarcal strict, l'homme s'affaire et rapporte l'argent. La femme s'occupe du foyer et des enfants. Catherine aura donc été une épouse effacée, soumise, pieuse, presque bigote sur le tard, transportant toujours avec elle les souvenirs d'un exil qui l'avait foudroyée. Disons que dans ce couple d'un autre temps, elle a été celle qui somatise dans le malheur, cependant qu'Igor, lui, se transformait. Stravinsky, lui-même touché par le bacille de Koch, doit partir en cure pendant 5 mois au sanatorium de Sancelmoos, en Savoie. C'est là qu'il achève le deuxième mouvement de sa symphonie en ut. Mais la série noire continue. Après sa fille et sa femme, en juin 39, il perd sa mère, dernier lien affectif avec son passé russe. Maigre consolation, la revue musicale d'Henri Prunière lui consacre l'un de ses célèbres hors-série. Igor domine la place musicale parisienne, mais c'est une place pleine de fantômes et qui vacille. En septembre, la guerre éclate. Décidément, tout appelle à l'exil. D'autant que son amie Nadia Boulanger l'a fait inviter par l'université d'Harvard, Cambridge, Massachusetts, pour une série de 6 conférences à la chaire de poétique, payée royalement $10,000. Arrivé le 30 septembre aux États-Unis, Igor se dit qu'il est peut-être temps de commencer une nouvelle vie. Pas facile à 57 ans, mais il a toujours eu le goût du défi. Et puis ces 3 deuils vraiment cruels en à peine plus de 6 mois ont fini de lui rendre odieuse cette France qu'il reconnaît si mal et cette Europe saisie par la folie nazie. Thank you. L'Allegretto de la Symphonie en ut d'Igor Stravinsky par le compositeur à la tête de l'orchestre symphonique de la CBC.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
1940, Stravinsky s'installe définitivement aux États-Unis. Le 13 janvier, il accueille Vera, qui arrive d'Europe par bateau. Deux mois plus tard, le 9 mars, il se marie en la petite ville de Bedford, Massachusetts, et dans la plus stricte intimité. Leur témoin semble avoir été Edward J. Robinson, grand acteur du cinéma hollywoodien, qui cette année-là tourne le vaisseau fantôme de Michael Curtis. Dans 4 ans, il rencontrera son grand rôle, celui de l'enquêteur perspicace avec son petit bonhomme dans Assurance sur la mort de Billy Wilder. La santé toujours fragile d'Igor le conduit à s'installer au soleil, en Californie, tout près de Beverly Hills. C'est là qu'il achève le 19 août sa symphonie en ut, œuvre de longue haleine, écrite à cheval entre l'Europe et les États-Unis, et dont rien n'assure qu'elle témoigne ni des deuils, ni de la guerre, ni de l'exil. Chez Stravinsky, on ne mélange pas les sentiments et le travail. « Je fuis le romantisme comme la peste », dit-il toujours. Et donc, l'idée même d'un lien supposé direct entre la vie et l'œuvre. La musique est un artisanat et rien de plus. Il se couperait presque un bras pour vous en persuader. D'ailleurs, la symphonie est composée dans la plus saine, la plus heureuse tonalité qu'on puisse imaginer. Ut majeur, un emblème du sourire classique, avec sur le pupitre les symphonies de Haydn, Beethoven ou Tchaïkovski. Comme si la vie, la vraie, ne devait pas entrer dans l'œuvre. C'est bien sûr un peu plus compliqué, mais passons. Tiens, revoici le sacre du printemps. Enfin, une façon de sacre. Quelques jours après la création de la symphonie en ut, sort en effet sur les écrans américains Fantasia de Walt Disney, avec la musique du sacre sur la vie et la mort des dinosaures. Un certain Ed Plumb, orchestrateur de son état, a tranché hardiment dans la partition, c'est plus une suite de morceaux choisis qu'un vrai sacre. Igor n'a pas l'air de s'en soucier. Et puis il n'aime pas trop le chef Leopold Stokowski, qui pourtant avait assuré la création américaine de l'œuvre quelques années auparavant. Quels que soient les reproches qu'on peut faire à Fantasia, n'oublions pas que ce concert long-métrage, comme on l'appelait alors, fut une petite révolution, avec à la clé un succès public qui fit des musiques et figurants, dont le sacre, de véritables tubes mondiaux. Il paraît même que la séquence stravinskienne inspira la carrière du paléontologue Stephen Jay Gould. Novembre 1940, Igor et Vera s'installent à Hollywood dans une superbe villa avec jardin, 1260 North Weatherly Drive. Ils y resteront 30 ans. Tous les immigrés de l'Europe en guerre habitent dans le coin. Thomas Mann, Aldous Huxley ou Arnold Schoenberg, qui vit à quelques centaines de mètres. Les deux compositeurs se croiseront par accident, mais ne se parleront jamais. Ce tango, ici interprété par les Sœurs Labeck, est la première œuvre spécifiquement écrite par Igor sur le territoire américain. Disons-le franchement, sous l'angle artistique, ça tâtonne un peu. Il est vrai qu'en ces inquiétantes années de guerre, et après tous ces deuils, il faut s'acclimater à un nouvel exil. Pour le 4 juillet de l'année 41, Igor commet un petit hommage à l'hymne américain, que l'État du Massachusetts s'empresse d'interdire, je cite, « pour cause d'altération de la propriété nationale ». Stravinsky a ajouté « des septièmes majeures », dites. Fin 1941, coup de fil de Balanchine, à qui on a demandé de servir d'entremetteur pour décider Stravinsky à écrire une pièce pour Modoc. Modoc, tenez-vous bien, est la jeune vedette de la troupe d'éléphants du cirque Barnum. Qui ? Demande Igor interloqué. Des éléphants. Combien ? Beaucoup. Quel âge ? Jeunes. S'ils sont jeunes, j'accepte. Circus Polka est donné pour la première fois le 5 février 1942, avec au passage la citation d'une marche de Schubert et des rythmes syncopés que les 50 éléphants de la troupe n'apprécient visiblement pas. Il s'en faut de peu que tout tourne à la catastrophe. Circus Polka sera tout de même redonné 400 fois en tournée par Barnum, ce qui en fait la pièce de Stravinsky qui touchera le plus de spectateurs directs. La grande œuvre de cette année 42, ce sont les danses concertantes, une façon de concerto grosso qu'Igor dirige en décembre à Los Angeles. Je ne dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais les danses seront plus tard bellement chorégraphiées par Balanchine. Elles méritent au moins d'être mentionnées. Elles valent tout de même mieux que ce qu'on en dit. Thank you. 1943, Serge Koussevitzky perd sa femme, Natalia, qui avait été la financeuse principale non seulement de son mari, mais de toutes les commandes qu'il passa à une foule de compositeurs. Koussevitzky, qui avait aussi été l'éditeur de Stravinsky à travers les éditions russes de musique, lui commande en mémoire de sa femme cette ode émouvante. Alors qu'il entre tout juste dans la soixantaine, Igor va bientôt être amené à multiplier les pièces en hommage à des amis disparus. Tâche passablement triste sans doute, mais dont il s'acquittera jusqu'à la fin avec une constance admirable et de vraies trouvailles d'émotion. Igor Stravinsky, ode pour Natalia Koussevitzky. C'était l'orchestre de Cleveland, dirigé par le compositeur.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
Tant qu'à vivre à Hollywood, autant se laisser approcher par le cinéma. Stravinsky semble demandeur et des projets divers sont discutés avec Orson Welles ou David O. Selznick. Mais rien n'aboutit. Se plier à l'image semble pour Igor une concession difficile. Seulement, comme chez lui rien ne se perd, un projet cinéma avorté devient, par exemple, un recueil d'impressions norvégiennes, vaguement inspiré de Grieg. Vous l'aurez compris, on fait feu de tout bois, avec tout de même un métier confondant. De ces années décidément profuses, à défaut d'être toujours d'un haut niveau d'inspiration spirituelle, notons encore une sonate pour deux pianos et une élégie pour alto. Et puis surtout, dérivé encore d'un projet cinéma, un scherzo à la russe écrit pour l'orchestre de jazz de Paul Whiteman, sorte de parodie de musique russe, pas loin de la Semaine grasse de Petrouchka, comme un retour au passé à la fois joyeux et grinçant. We'll be right back. En ces années de guerre, il semble très à la mode aux États-Unis de commander de la musique à Stravinsky, qui accueille de bonne grâce des projets pas toujours très inspirants. Ainsi, le promoteur de spectacle Billy Rose lui passe commande pour une revue. Igor achève ses scènes de ballet en août 44. Au passage, il inscrit à la fin de sa partition « Aujourd'hui, Paris n'est plus aux mains des Allemands ». Après la première, Billy Rose envoie un télégramme « Gros succès, stop !» pourrait être un triomphe si vous acceptiez que Robert Russell Bennett retouche l'orchestration « Stop !» Il orchestre même les œuvres de Cole Porter. Stravinsky répond du tac au tac « Gros succès suffira, stop !» On est prêt à écrire pour une revue, mais que l'orchestrateur de Cole Porter mette sa main dessus, il y a des limites. La guerre s'achevant, Stravinsky va-t-il revenir en Europe? Beaucoup l'y attendent, mais pas tout le monde. Une nouvelle génération est là, qui considère que tout ce qui n'est pas elle relève du vieux monde et doit être passé par les pertes et profits des événements tragiques qu'on vient de vivre. Ainsi, lorsque Manuel Rosenthal et Roger Desormières donnent, pendant la saison 44-45, l'œuvre de Stravinsky avec l'Orchestre National, les danses concertantes et même le sacre sont huées par les genoux de la classe de René Leibovitz. Parmi eux, Serge Nig ou Pierre Boulez, qui a 20 ans à peine et travaille alors à ses notations. Assez de Stravinsky, s'insurge André Jolivet dans la revue Noir et Blanc. Vive Stravinsky, rétorque Francis Poulenc dans le Figaro. Comme au temps du sacre, autour du nom Stravinsky se cristallise le clivage des anciens et des modernes. Mais cette fois, ce sont les anciens qui le défendent et les modernes qui le conspuent. Logiquement, me direz-vous, le temps passant, les francs-tireurs d'hier deviennent les vieilles barbes d'aujourd'hui. Seulement, alors que les nouveaux jeunes le prennent pour épouvantail, un symbole du monde d'avant, corrompu, compromis, les mêmes choisissent son vieux rival Schoenberg comme apôtre des temps nouveaux. C'est tout de même un peu vexant.
And the whole earth was of one language and of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found the plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar.
Stravinsky, cependant, est loin de ses tempêtes dans un verre d'eau parisien. Il travaille sur une œuvre collective initiée par un éditeur de musique, une fresque inspirée de la Genèse écrite par les grands compositeurs européens installés aux États-Unis. Schoenberg fait le prologue, Tanzmann la chute, Millau, Cain et Abel. Pour le cosmopolite et polyglotte Igor, ce sera l'épisode de la Tour de Babel.
And the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, scatter them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. Therefore is the name of the city called Babel, because the Lord did there confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of all the earth.
Le 1er décembre 1944, le succès du concerto de Béla Bartók à Boston intrigue Stravinsky. Même s'il est très demandé depuis 5 ans qu'il est installé aux États-Unis, il cherche encore le grand public. Avec son concerto, Bartók l'a trouvé. La commande que la Société Philharmonique de New York passe à Igor lui donne l'occasion d'œuvrer dans cette direction. Il récupère au passage des esquisses d'un passé proche, des citations de lui-même, des rythmes venus d'un peu partout, le tout dans une pièce qui entend célébrer la fin de la guerre. La symphonie en trois mouvements ne connaîtra pas la postérité du concerto de Bartok. Il n'empêche, c'est un chef-d'œuvre.
Thank you.
Pierre Boulez et l'Orchestre Symphonique de Chicago dans le final de la Symphonie en trois mouvements d'Igor Stravinsky.
Igor Stravinsky, chronique de sa vie, Lionel Esparza.
Sa nouvelle symphonie achevée, Igor se lance dans un exercice presque contraire. Le clarinettiste Woody Herman lui ayant demandé un concerto façon jazz, Stravinsky, qui n'aime pas franchement cette musique, se met à la tâche en allant jusqu'à écouter soigneusement les enregistrements de son commanditaire afin d'écrire à sa main. Dans la forme, le résultat est plus proche d'un concerto à la Bach, peu swingant, mais ça n'est pas l'enjeu. En revanche, avec une formidable intuition, Igor retrouve quelque chose du jazz originaire, celui, par exemple, des enterrements de la Nouvelle-Orléans, qu'un Wynton Marsalis réévaluera bien des décennies après. Le 28 décembre 1945, Igor et Vera obtiennent la nationalité américaine. Le même jour, Stravinsky déjeune à Los Angeles avec un éditeur, Ralph Hawks, patron des éditions Boosey & Hawks. Celui-ci vient de racheter le catalogue des éditions russes de musique. Il se retrouve donc propriétaire des œuvres écrites par Stravinsky avant 1938 et lui signe un contrat pour une rente annuelle de $10,000. En échange, Igor doit établir des versions définitives et américaines de ses œuvres antérieures. L'affaire n'est nullement anecdotique. À partir de 1945 et pendant une quinzaine d'années, une bonne partie du temps de Stravinsky va être occupée par la révision systématique de son œuvre passée. Correction des fautes d'édition, il y en avait, dit-on, 300 dans la première partition du Sacre du Printemps, ou remaniements plus ou moins significatifs. Dans le vaste mouvement de relecture historique qu'il occupe depuis plus de 20 ans, sa propre musique finit elle-même par devenir son matériau. Pour être complet, ajoutons que la manœuvre permet aussi à Stravinsky de récupérer l'intégralité de ses droits sur ses œuvres passées, qu'il avait en partie perdues après la Révolution russe. C'est peut-être le moment de préciser, à propos de sa célèbre cupidité, oui, Igor aimait l'argent, beaucoup. Il était intraitable en affaires, toujours à l'affût du bon filon et du meilleur mécène. Il a aussi beaucoup perdu dans les chaos de l'histoire, et toute sa vie a dépensé luxueusement, pour lui-même et pour ses proches, entretenant non seulement sa propre famille, mais toute une nuée d'amis plus ou moins intéressés pour lesquels il a longtemps tenu table ouverte et logis ouverts. Bref, là comme ailleurs, notre homme est moins un paradoxe qu'une somme de contraires crânement assumés. En 1946 arrive d'Europe une commande, la première depuis plus de 10 ans, de Bâle pour être précis, et de Paul Zacher pour son orchestre de chambre. Encore un concerto grosso qu'on dira en ré, et de Bâle justement pour le distinguer du Dumbarton Oaks. Est-ce le souvenir européen? Voici l'une des inspirations les plus tendres de Stravinsky. Thank you. C'est à cette époque, juste après la guerre, que Nicolas Nabokov, 30 ans après Ramu, témoigne du studio de travail de Stravinsky. C'était une pièce extraordinaire, le bureau le mieux organisé et le mieux installé que j'ai vu. Il y avait deux pianos, un à queue et un piano droit, des tables, un petit bureau élégant et une table de dessinateur aussi, deux armoires à rayonnage en verre contenant des livres, de la musique et du papier à musique classés par ordre alphabétique. Sur une table réservée aux fumeurs étaient posées toutes sortes de paquets de cigarettes, de briquets, de fume-cigarettes et de cure-pipe. Cinq ou six chaises confortables et le divan où il faisait sa sieste avec sur le visage une expression de colère retenue. En 1947, Stravinsky se lance dans un nouveau ballet, toujours pour Balanchine et la Ballet Society de New York, Orpheus, un projet ambitieux, comme une réponse à Monteverdi et à son Orfeo. Il y retrouve l'inspiration simple et hiératique d'Apollon Musagète. C'est une œuvre crépusculaire, comme recouverte d'un voile de tristesse. Peut-être aussi un autoportrait antéposthume. À Nicolas Nabokov, Igor décrit ainsi le déchirant épilogue. Orphée est mort, sa chanson a disparu, mais l'accompagnement demeure comme une complainte qu'on ne peut plus arrêter. L'apothéose qui referme Orpheus d'Igor Stravinsky par Esa-Pekka Salonen et l'orchestre Philharmonia. C'était Stravinsky, Chronique de sa vie, une émission de Lionel Esparza préparée par Flora Sternadel, mise en page par Christine Amado, recherche Ina Haute-Vassan, à la technique aujourd'hui Pierre Henry. Je vous retrouve dimanche prochain à 11h pour notre 7e épisode, La Métamorphose.
À réécouter sur francemusique.fr.